Voilà, Bruno, je vous laisse donc la parole pour ce nouvel enseignement sur Maria Valtorta.
Merci, quelle joie de se retrouver une fois par mois pour parler de celui dont nous préférons, celui que nous aimons, celui que nous adorons, Jésus, Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, à travers une œuvre absolument extraordinaire, magnifique, exceptionnelle, je crois, unique dans l'histoire de l'humanité, l'œuvre de Maria Valtorta. Donc, 13 400 pages qu'elle a reçues, écrites sans aucune rature, je le rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas. L'évangile tel qu'il m'a été révélé et qui permet de découvrir d'une manière exclusive, je dirais, Jésus, ses paroles, ses gestes, de toutes les manières. Alors, on va commenter d'abord un petit texte que l'Esprit Saint donne à Maria Valtorta, un commentaire qu'il donne sur les paroles célèbres de Saint Paul. Vous vous souvenez, hein, ce n'est pas moi qui vis, pardon, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et cette petite phrase, eh bien, fait l'objet de commentaires, d'un magnifique commentaire extrait de Leçon de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Donc on va voir ce que l'Esprit Saint donne à Maria, hein, c'est l'Esprit qui lui parle, dit-elle, son doux hôte, comme elle l'appelle. Et voir comment dire, la spiritualité absolument extraordinaire qui est contenue dans cette œuvre. Ensuite, nous allons nous appuyer ce soir sur des petits détails parmi les milliers, hein, les 18 000 qu'elle donne de descriptions autour d'elle dans la vie de Jésus là, et voir par exemple la question du riz, de l'avoine et du seigle. Hein, cette question, vous savez, tous ces détails ont été analysés par des spécialistes et il y a quand même des concordances tout à fait étonnantes avec des éléments que seuls les spécialistes peuvent connaître, ce qui laisse entendre que cette femme paralysée dans son lit a bien vu, a bien été l'objet de visions, a bien fait l'objet d'une grâce particulière en voyant la vie de Jésus. Donc on va voir quelques petits détails scientifiques. Ensuite, on va eh bien, prendre un extrait d'une adaptation de l'évangile tel qu'il m'a été révélé pour les enfants. Est terminé par une très belle parabole que Jésus a donnée dans l'œuvre de Valtorta. Il en a donné évidemment des centaines pendant sa vie publique. Les évangiles canoniques en retracent que eh bien, quelques dizaines qui sont très célèbres. Pour nous, les chrétiens, nous les connaissons, nous les réentendons régulièrement à la liturgie du dimanche. Mais Jésus, évidemment, on peut imaginer qu'il en a raconté bien d'autres, et Maria a eu la grâce de les entendre mot pour mot, de les noter, et dans ses fameux manuscrits, 122 cahiers sans aucune rature, hein, eh bien, pendant donc ces 7 années de travail entre 43 et 50, 1950. Et donc, on va écouter une de ces petites paraboles qui fait l'objet de ces nombreuses petites paraboles. Ben, que l'on ne connaît pas encore des évangiles canoniques, mais qui, dans le même évangile, car Valtorta, c'est le même évangile, ce n'est pas un évangile différent, autant dans la doctrine que dans les passages qu'on retrouve, hein, évidemment, avec quelques scènes, plusieurs scènes et de nombreuses scènes que les évangélistes n'ont pas pu raconter sur leur petite tablette de cire, ce qu'on comprend très bien. Voilà. Donc, d'abord, ce petit passage de Saint Paul. Alors, vous connaissez, hein, cette leçon aux Romains, Saint Paul aux Romains, hein, chapitre 7, des versets 14 à 25. Alors on va prendre juste le 18, 19. Ce qui est bon, je le sais, l'habit est en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas ce que je veux, hein, il le dit, il va un peu plus loin et il dit, je fais cette phrase célèbre, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Alors voilà ce que dit l'Esprit Saint, donc c'est le 21 au 28 mai 1948, hein, Maria note, le doux hôte me dit, pour bien comprendre les paroles de Paul, il faut considérer attentivement le péché originel. La leçon a été donnée bien des fois, mais jamais trop de fois. Car la réalité douloureuse du péché originel et de ses conséquences sont souvent niées et remises en doute par beaucoup, par trop de gens. Parmi eux, il y en a qui devraient être bien plus convaincus que les autres de la réalité du péché originel et de ses conséquences. En effet, leurs études, et surtout leur expérience de leur ministère, leur fournissent continuellement des preuves tangibles de la décadence de l'homme qui, de créature parfaite qu'il était, à cause du péché originel, s'est transformé en créature faible et imparfaite, exposée aux assauts de Satan et aux dangers extérieurs et intérieurs. L'homme est une merveilleuse œuvre de la création que l'ennemi de Dieu a troublée par jalousie. Certains diront, leçon 100 fois répétée, donc inutile. Elle est donc utile, pardon, elle est toujours utile. Au moment du besoin, vous ne le savez jamais assez, ni pour vous-même, ni pour les autres. Satan est excessivement intéressé à ce que vous ne sachiez pas cette leçon. Alors il obscurcit en vous l'extase connaissance de cette période, de cet épisode. C'est pourtant un épisode qui ne s'est pas terminé le jour de son accomplissement et dont les conséquences ne sont pas arrêtées aux personnes qui l'ont accompli. De même que tous les hommes ont hérité de la vie, l'existence, à partir du sang et de la semence d'Adam et Ève, de même ce funeste héritage s'est propagé et se propage de génération en génération. Depuis Adam, premier géniteur, jusqu'au dernier humain qui va être engendré, car le dernier homme qui naîtra sur terre sera encore de la descendance de vos premiers parents. L'affirmation de Paul représente le regret exprimé par tous ceux qui, malgré leur volonté vraiment bonne, constatent qu'ils sont incapables de réaliser le bien avec la perfection voulue. Pour bien comprendre cet aveu, il faut regarder les conséquences de la première faute. Et donc la première faute, elle aussi, afin de ne pas trouver injuste la condamnation et ses conséquences. Voici l'aveu de Paul. « Je suis charnel, vendu et sujet au péché. » Et il continue. « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je déteste. Mais si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais également que la loi est bonne, en interdisant ou en prescrivant ce qu'elle interdit ou prescrit. Mais lorsque je fais le mal que je déteste avec ma partie la meilleure, tandis que je ne fais pas le bien que je voudrais faire, à ce moment-là, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Dans ma chair n'habite pas le bien. Il y a en moi la volonté de l'accomplir, mais je n'arrive pas à le faire. Alors là, son doux hôte, hein, Marie-Valtorta, l'Esprit Saint continue à citer les passages de saint Paul. Lorsque je veux faire le bien, le mal est déjà là, à côté de moi, dans mon être intérieur, et je me réjouis de la loi de Dieu, mais dans mes membres, je trouve une autre loi qui s'oppose à la loi de ma raison et me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Je suis charnel. Alors voilà le commentaire qui se poursuit. Maria note « Adam lui aussi était fait de chair, en plus d'être fait d'esprit. Mais il n'était pas charnel, car son esprit et sa raison dominaient la matière. Son esprit innocent et plein de grâce reflétait les traits bienheureux de son créateur, merveilleux de son créateur, étant assez intelligent pour comprendre ce qui existe déjà du monde naturel. Son intelligence était très étendue à cause du don préternaturel de science infuse qui le rendait capable de comprendre toutes les réalités naturelles et avait été élevé par la grâce au niveau surnaturel, le rendant capable de comprendre l'incompréhensible, chose impossible pour ceux qui ne sont pas préparés à cela par un don surnaturel. Capable de pouvoir comprendre Dieu et en proportion réduite de pouvoir être l'image fidèle de Dieu pour l'ordre, la justice, la charité, la sagesse et la liberté de tout esclavage avilissant. Oh, la splendide liberté de l'homme plein de grâce! Dieu lui-même la respectait et elle n'était menacée ni par des forces extérieures ni par des appétits intérieurs. Royauté sublime de l'homme déifié, fils de Dieu et héritier du ciel, royauté de domination sur toutes les créatures, qui vous permettait aussi de dominer ce qui maintenant vous tyrannise de plus, votre moi, où fermentent sans relâche les poisons de la grande blessure. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution, de même que la création n'est pas le produit d'une autogenèse. Une évolution suppose toujours une première source créative. De plus, penser que les innombrables espèces d'existence puissent dériver d'une seule cellule auto-engendrée est un pur absurde. Pour vivre, la cellule a besoin d'un milieu fertile, pourvu d'éléments qui permettent de maintenir la vie. Si la cellule s'est auto-engendrée à partir de rien, elle a trouvé des éléments pour se former, vivre et se reproduire. Si elle n'existait pas encore, lorsqu'elle a commencé à être, comment a-t-elle pu trouver les éléments vitaux, l'air, la lumière, la chaleur, l'eau? Ce qui n'existe pas encore ne peut pas créer. Alors comment la cellule aurait-elle trouvé les quatre éléments déjà prêts à la recevoir au moment de sa formation? L'air, la lumière, la chaleur et l'eau? Qui lui aurait donné le germe qui s'appelle la vie? Quelle source? Même si par hypothèse on voulait admettre que le non-existant soit formé à partir de rien, et de quelle façon, à partir de son unité et de son espèce unique, aurait-il pu produire toutes les variétés d'espèces qu'on trouve dans la création visible? Astres et planètes, modes de terre, rochers, minéraux, Les multiples et différentes qualités du règne végétal, les différentes espèces de familles du règne animal, encore plus nombreuses et variées que celles du règne végétal, des invertébrés aux vertébrés, des mammifères aux ovipares, des quadrupèdes, des quadrumanes, des amphibies et reptiles, les poissons et carnivores féroces, aux vins doux, les animaux armés de redoutables attaques, armes d'attaque ou de défense, aux insectes, car rien suffit à détruire, des colosses qui habitent les forêts vierges et contre qui aucun animal ne peut s'élever, sauf leurs propres semblables, à toutes les catégories d'anthropodes, jusqu'aux protozoaires et bacilles, tous venus d'une seule et unique cellule, et par génération spontanée. Si tel était le cas, la cellule serait plus grande que l'infini. Pourquoi l'infini? Celui dont les attributs n'ont pas de mesure a-t-il été occupé pendant 6 jours, 6 étapes sidérales pour faire la création visible en départageant l'œuvre de cette création en 6 ordres de création ascensorielle qui évolueraient, elles, oui, vers des perfections toujours plus hautes? Non, parce qu'il avait besoin d'apprendre à créer toujours mieux, mais à cause de l'ordre qui règne dans toutes les opérations. L'homme a été fait au 6e jour. En lui sont résumés les 3 règnes de la création sensible, merveilleuse vérité. En lui se trouve aussi la preuve de son origine divine, l'âme spirituelle que Dieu a infusée dans la matière de l'homme. L'homme, véritable agneau de jonction entre la terre et le ciel, véritable trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel, être où la matière sert de tabernacle à l'esprit, être où l'esprit vivifie la matière, non seulement pour la vie mortelle qui est limitée, mais aussi pour la vie immortelle qui doit venir après la résurrection finale. Et voilà donc le doux hôte de Marie Valtorta, l'Esprit Saint, qui continue sa dictée. Alors, je ne veux pas tout vous lire aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans ce magnifique livre, de leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains. Et après plusieurs pages, eh bien, il parle, il commente l'épreuve et explique donc le bon Dieu a dû mettre à l'épreuve, a prévu d'ailleurs de mettre à l'épreuve les hommes de manière tout à fait douce avant le péché originel pour mesurer les mérites de chacun et qu'ils puissent mériter un ciel. Et maintenant, il faut faire face à l'adversité, à la difficulté, à la peine qui émane qui est la conséquence du péché originel. Voilà. Tous ces commentaires, donc, on les trouve de manière absolument magnifique. L'homme doit retrouver l'obéissance et le moyen qui est expliqué, ben, donc, c'est vraiment, Jésus résume en parlant de la souffrance, le devoir humain, c'est d'expier par les croix, le châtiment qui est arrivé. Hein. Donc tout ce qui est difficile dans notre vie, ben, c'est le moyen, tout simplement, pour accéder au ciel, quand il est offert de bon cœur. Voilà, toutes ces leçons qu'on retrouve hein, dans ce livre de leçons sur l'épître de saint Paul aux Romains, que Marie Valtorta a reçu, paralysée dans son lit, hein, et qui sont absolument sublimes. Voilà, je vous laisserai découvrir la suite si ça va vous intéresser. Il était bon hein, de rappeler juste ce petit passage sur ce commentaire de saint Paul, ce cri de saint Paul que l'on retrouve, hein, je le répète, souvent dans la liturgie. Je ne veux pas faire le bien que je voudrais faire, je ne peux pas faire le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Voilà, donc toute l'épître aux Romains de saint Paul est commentée dans ce livre, une pure merveille. Je vous invite à le trouver si vous n'y avez pas déjà, hein, à le trouver et à lire ce magnifique récit de Marie Valtorta. Alors, je propose maintenant de faire une toute petite pause avec un enseignement de Jésus de 6 lignes que Jésus donne à Simon-Pierre. Alors, c'est dans l'évangile tel qu'il a été révélé. Simon-Pierre est découragé, il s'est isolé sur une colline, triste, la tête baissée. Jésus le rejoint et il le relève tout doucement de son découragement, patiemment et avec beaucoup de tact, d'amour, de patience. Et il lui donne cette petite leçon. La prière, prions Pierre, Simon-Pierre, et à la fin il lui demande il va même faire lui réciter le Notre Père, et il l'introduit par cette phrase: « La prière met en fuite les fantômes de Satan, nous fait sentir près de Dieu, Et avec Dieu près de soi, on peut tout affronter, Simon-Pierre, et supporter avec justice et mérite. Je trouve ça très beau, cette phrase. La prière met en fuite les fantômes de Satan, nous fait sentir près de Dieu. Je crois que tous, nous avons senti déjà la proximité de Dieu dans la prière. On ne le sent pas toujours, mais très souvent, en tout cas, si on ne le sent pas, on le sait dans la foi. On est près de Dieu. Et avec Dieu près de soi, on peut tout affronter et supporter avec justice et mérite. C'est beau, c'est vrai. Quand on se décourage, quand on n'a plus la force de faire ce qu'on doit faire, ou quand on est blessé et à mort, hein, par une méchanceté ou par une épreuve, eh bien, la chose qu'il faut faire, c'est prier. C'est prier. Retrouver Dieu dans la prière, parce qu'une fois à côté de Dieu, parce que Dieu ne s'éloigne jamais, mais c'est nous qui nous éloignons, eh bien, ou plutôt on éloigne Dieu par nos choix, c'est lui qui s'éloigne parfois, eh bien, on retrouve la proximité de Dieu, une prière humble, une prière qui regrette le mal qu'on a fait, une prière reconnaissante par la bonté de Dieu, le miséricorde de Dieu, qui écoute malgré le péché parfois, eh bien, on donne ça. Donc, Jésus dit ça à Simon-Pierre, hein, pour l'encourager, hein, et qu'il pourra tout affronter et supporter avec justice et mérite s'il reprend le chemin de la prière. Et puis enfin, Jésus lui parle de cette religion catholique qu'il va fonder. Hein, on voit toutes ces explications dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Torta. Et il dit qu'elle sera une étoile polaire pour le monde. Effectivement, la religion catholique chrétienne est une étoile pour le monde. Qui la fuit ou qui la cache, elle reste une étoile. Et ils récitent ensemble Notre Père. Jésus lève les mains, il prend celle de, avec sa main droite, il prend la main gauche de Simon-Pierre, et il récite le Notre Père lentement. Notre Père qui êtes aux cieux, etc. C'est très très beau. Vous voyez un peu la méthode de Jésus, hein, c'est bon pour nous aussi. Un, il conseille de prier, à l'apôtre découragé. Bon, effectivement, nous, comme nous sommes découragés, bon, c'est une méthode pour nous, mais c'est aussi une méthode à suggérer autour de nous. Et puis deux, tout doucement, il prend la main de l'apôtre et il fait la prière avec lui. Voilà une belle recette quotidienne, à appliquer régulièrement, pourquoi pas quotidiennement, quand on rencontre des gens qui souffrent. Écoutez, c'est bien, mais Jésus prend la main et invite à prier. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément prendre la main physiquement. On n'a pas toujours des rapports avec des gens qui le permettent, et c'est bien. Mais en tout cas, il faut le faire de manière symbolique. Prendre le cœur de la personne et l'aider à le relever. Voilà. Donc, l'œuvre de l'évangile qui m'a été révélée de Maria Torta, comme ça, est remplie de petites leçons à tous les coins de page. Et je vous rappelle que c'est celui qui nous donne les leçons. Celle qui les note, c'est Maria Torta, mais celui qui les donne, c'est Jésus. Donc, c'est le maître parfait, le maître divin. Alors, pourquoi se priver de telles leçons ? Je précise qu'on peut écouter l'œuvre, hein, l'évangile tel qu'il m'a été révélé en audio sur Radio Maria. Il le passe régulièrement, de manière quotidienne. Vous pouvez, en regardant les programmes, voyez, vous pouvez aussi... c'est gratuit, ça permet d'être en présence de Jésus, de faire ce qu'on appelle lectio divina. Hein. C'est personnellement ce que j'encourage le plus à faire dans la vie, hein, c'est de contempler Jésus de manière quotidienne, de manière très facile, en écoutant l'œuvre, car on peut le faire avec n'importe quel emploi du temps. L'écoute, la lecture est nécessaire, est bonne, est conseillée, mais tout le monde ne peut pas trouver du temps pour lire dans des vies parfois très remplies. C'est malheureux et tout le monde devrait, mais parfois par faiblesse, hein, c'est pas facile. Donc je conseille vivement l'audio et Radio Maria par exemple. Ou encore vous prenez une clé USB, ça existe aussi. L'association diffuse, Maria Torta diffuse des clés USB, hein, et vous pouvez l'installer. Et là vous mettez le lecteur, un petit lecteur, ou sur un téléphone, et comme ça vous pouvez faire la fameuse lectio divina, hein, ce qui est le plus recommandé par toutes les règles monastiques, dans tous les monastères, tous les programmes qui se veulent être des autoroutes pour le ciel, hein, à savoir la vie consacrée, eh bien, propose en activité quotidienne d'abord la lectio divina, d'abord la contemplation du Verbe incarné, pour savoir ce qu'il a dit, ce qu'on doit faire, la doctrine, et on peut le faire très facilement avec ce petit moyen. Alors, je vous ai dit au début que nous allions voir des exemples assez de petits détails que Maria notes dans ces journaux, hein, de manière très naturelle, et qui ont fait l'objet de recherches par de nombreux scientifiques. Hein, le plus célèbre, je le cite souvent, c'est Jean-François Lavert, un ingénieur chimiste qui, à la retraite, écoute sa femme qui lit Walter Ta et il veut lui prouver que c'est un roman, donc il commence à faire des recherches sur tous les détails. Et surprise, au bout de quelques jours, il se rend compte que ça peut être tout sauf un roman, tellement il y a de réalité derrière toutes ces petites notes qu'elle donne, de réalité qui sont connues que par des scientifiques et vous le savez, hein, qui ont été parfois découvertes en archéologie des années après la mort de Walter Ta. Donc il confirme bien qu'elle avait des visions qui venaient d'une autre dimension que ses capacités humaines. Alors là, il y a une réflexion qui a été faite, par exemple, sur tous les sujets, les bâtiments, évidemment la géographie, et puis sur la faune, la flore, etc., et sur le riz, l'avoine et le seigle, donc les nourritures. Alors voilà ce que dit Jean-François Lavert, hein. Après 15 années de recherche, où il a trouvé 99,9% de vérification de tous ces détails que la voyante écrit d'une main facile, sans aucune rature, sur ses cahiers dans son lit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc depuis, il dit, Jean-François Lavert, hein, il dit « Depuis des milliers d'années, le riz a été l'alimentation de base en Asie, du Sud et en Orient. Pourtant, il n'est pas question du riz dans la Bible, contrairement au Talmud, qui le connaît sous le nom de Orez. Aucun témoignage ne mentionne sa culture en Palestine au 1er siècle. Mais cette culture du riz est pratiquée dans la plaine de Uré depuis maintenant quelques siècles. » Donc il donne ses citations, hein, Salomon Muck, Palestine, description géographique historique. Hein, il puise dans de nombreuses sources historiques, scientifiques, etc. Pour aller voir, vérifier encore ces détails que Maria écrit très facilement dans ses descriptions, qu'elle voit ou qu'elle entend. L'absence de la moindre allusion au riz, dit Jean-François Lavert, par Marie-Walter Ta, peut donc être portée au crédit de l'authenticité de ses révélations. Effectivement, elle ne parle jamais de riz. Le seigle et l'avoine ne sont pas non plus mentionnés dans la Bible. Si donc Marie-Walter Ta y avait puisé son inspiration, elle n'aurait sans doute pas cité dans son œuvre l'avoine, elle, à plusieurs reprises, dès les premières pages. Une belle tonnelle qui coupe en deux le verger jusqu'au commencement des champs dont les avoines sont récoltées. Donc, dit-elle au chapitre 5.1, comme aux toutes dernières, encore une citation dans l'œuvre, « La paille peut-elle suffire ? Elle ne suffit pas même pour le ventre des bêtes, pour le ventre des bêtes de somme, et si leur maître ne fortifie pas les animaux avec de l'avoine et des herbes fraîches, les animaux nourris de la seule paille dépérissent et finissent par mourir. » Chapitre 635. Verset 13, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, mais elle ne sort pas. Quant au seigle, elle en observe dans la région de Kériote. Donc, vous voyez, pas de riz. Effectivement, elle n'en décrit pas. Dans la Bible, pas d'avoine, pas de seigle. Et elle en décrit. Du seigle, dans les champs assez étroits, mais bien tenus, cultures diverses de céréales, orge, seigle surtout, et aussi de beaux vignobles sur des terres les plus ensoleillées. Vous savez que Maria, elle décrit souvent les paysages qui l'entourent avant d'en arriver au personnage et au dialogue. Voilà, donc c'est dans cette toute petite description que les spécialistes cherchent à valider, cherchent à se rendre compte si elle invente ou si, effectivement, ces confirmations avec des sources plus importantes puissent nous donner un indice supérieur qu'elle a bien reçu ses visions. Un texte du Talmud, la Mishnah, confirme que le seigle, chiffon, et l'avoine, shibboleth shual, étaient connus et cultivés en Judée vers le 1er siècle. Alors le scientifique, là, Jean-François Lavert, précise qu'il faut voir aussi Constantin François Volney, voyage en Syrie en Égypte en 1787, page 288 et 289. Eh bien, il y a aussi une confirmation que le seigle était cultivé, donc en Judée, vers les premiers siècles. Mais il est hautement improbable que ce texte ait pu influencer Marie-Walter Ta, ajoute le spécialiste Jean-François Lavert. Eh oui, encore un, après il parle des agaves, pareil, les figues de Barbarie, alors ça fait l'objet d'une discussion, les figues de Barbarie, hein. En fait, elle les appelle des cactus ou qui ressemblent à des cactus. Alors évidemment, les détracteurs de Walter Ta se jettent dessus. Et on a eu le cas plusieurs fois, hein, de gens qui ont dit, bah, vous voyez, c'est bien la preuve qu'elle dit quelque chose de faux. Elle dit qu'ils ressemblent à des cactus. Et puis à plus loin, elle dit, bah, je vois des petites boules dessus. Et effectivement, ce sont les figues de Barbarie qui ressemblent énormément à des cactus qui sont entourés de boules, vous savez, comme des gros boutons, hein, qui sont les figues, qui sont comestibles. Voilà, vous voyez donc, etc., quoi. Et que les gens qui ramassent les figues se piquent les doigts, parce que sur ces figuiers de barbarie, etc. Donc voilà, on a plusieurs éléments, hein, et puis Jean-François Lamère, pardon, classe toutes ces recherches, eh bien, évidemment, en nombreuses disciplines, on va dire, hein. Évidemment, il y a l'avoine, il y a l'histoire des talents, il fait des recherches après sur les animaux, des recherches sur les bâtiments qu'elle voit, hein. Le puits de Jacob, les piscines de Salomon, les tombeaux de Maccabée, la tombe d'Hillel, etc., tous les bâtiments qu'elle voit au fur et à mesure des visions, des 10 volumes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, hein. Elle reçoit 4800 pages, hein. 7 ans de vision, 1 à 2, 3 heures par jour concernant l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, et puis tout autant sur d'autres enseignements. Les cahiers de 43, les cahiers de 44 et les cahiers de 45 à 50, qui sont des visions, hein, de vie de saint, d'enseignement de Jésus, de conseils spirituels, qui sont très très beaux. Et puis donc, Jean-François Lavert continue et classe toutes les recherches, hein, les pharisiens, les paraboles du drachme, il s'intéresse sur les versets, un verset de Saint-Luc un peu obscur, etc., Chorazin, Bethsaïda. Et donc, ces conclusions sont les mêmes que 39 autres spécialistes. Enfin, c'est, moi, j'en ai eu 40 dans ma liste, mais il y en a d'autres qui continuent à chercher. Et il est impossible à une femme seule dans son lit d'arriver à de telles précisions. Voilà pour l'anecdote et l'exemple du riz. Alors, elle cite aussi d'autres, évidemment, tous les lieux dans lesquels elle voit, hein, qu'elle voit. Et on a pour cela, eh bien, on peut se procurer par exemple le dictionnaire géographique de l'Évangile d'après Marie Tortin, hein, qui décrit les lieux, les monuments, les peuples. Et là, en parcourant ce dictionnaire, il établit à partir des données contenues dans le livre de Tortin, évidemment, on constate effectivement que chaque colline, chaque cours d'eau, chaque voie romaine, chaque sentier, les agglomérations, chaque monument, eh bien, effectivement, correspond à ceux qui sont connus, hein, par les cartes, les géographies. Et donc, cette œuvre de Marie Tortin comporte des mines d'informations, hein, même sur les différents peuples, hein, sur les Esséniens, enfin, les Zélotes, les Sadducéens, les Hérodiens, les Pharisiens, les peuples juifs, sans oublier les Gaulois, les Grecs, les Germains, les Romains et même les Galériens, parce qu'évidemment, il décrit tous les personnages qui tournent autour de Jérusalem dans les rencontres avec Jésus, les esclaves, des personnes pauvres, des personnes riches. La mystique italienne donc nous révèle les lieux que Jésus évangélisa il y a 2000 ans. Elle nous instruit sur les habitudes et les croyances des peuples que Jésus rencontra et sur les difficultés de sa mission de rédempteur. Ce n'est évidemment, je le répète, pas un cinquième évangile. Hein. Elle nous immerge dans l'évangile, l'unique évangile. Et donc, Jean-François Lavert, hein, ce spécialiste, a montré dans plusieurs de ses livres avec méticulosité, on peut dire, et précision, hein, que tout ce qu'on peut vérifier dans l'œuvre dans la tortue est parfaitement exact. Ça, c'est vraiment à retenir. Vous pouvez le dire autour de vous, vous pouvez vous procurer ces livres si vous avez besoin de confirmation, hein, de détails, de démonstration. Il s'appelle L'énigme de Valterta, le tome 1. Le tome 2 aussi, c'est plus l'exégèse. Le dictionnaire géographique de l'Évangile tel qu'il a été révélé, on le trouve dans n'importe quelle librairie. Jean-François Lavert, L'énigme de Valterta, ou du même auteur, Jean-François Lavert, le dictionnaire géographique. Et là, vous pourrez facilement convaincre autour de vous votre prêtre, éventuel théologien, détracteur, hein, qu'il parle de ce qu'il connaît, mais qui ne parle pas toujours, ou ne devrait parfois pas parler, comme chacun d'entre nous, de ce qu'il ne connaît pas. À savoir, vous pouvez leur montrer combien les détails sont précis, et leur montrer des exemples, et vous-même vous convaincre. Eh bien, que l'œuvre de Valtartan est non seulement authentique, mais elle est une preuve vivante, vivante, de l'existence de Dieu. Quand on rentre dans ces détails, je le répète à chaque émission, et pardonnez-moi, chers auditeurs, mais c'est tellement important. L'œuvre de Valtartan, aujourd'hui, hein, c'est 4800 pages de l'Évangile, eh bien, sont une preuve vivante, à cause des multiples détails, vivante, que Jésus a vraiment existé, que Jésus est vraiment Dieu, le seul Dieu, le Sauveur, et que son enseignement, eh bien, puisqu'on a les preuves à travers toutes ces confirmations scientifiques, et Jésus l'a dit à Marie elle-même, il a dit « je donne dans l'œuvre les moyens de vérifier que c'est moi et non toi qui l'écris ». Il suffit de se pencher, Jésus dit « c'est à moi, je vous la donne, maintenant c'est à vous de faire », sous-entendu, Eh bien, enfin, plutôt très clairement, Jésus explique que c'est à nous de faire l'effort, de se rendre compte, de rentrer dedans. Effectivement, d'aller voir peut-être tous ces exemples scientifiques, vous en trouvez sur Internet un peu partout. Et ainsi, de se rendre compte que, eh bien, que ça vaut le coup d'être chrétien, et que ça vaut le coup de reconnaître Jésus comme notre Dieu, parce que l'enjeu de notre éternité, eh bien, c'est lui qui peut nous guider, et c'est lui qui peut, à travers eh bien, la contemplation de sa personne, la contemplation de ses paroles et ses gestes, eh bien, nous élever. Nous qui sommes si facilement en chute, si facilement attirés vers le bas, eh bien, à travers cet exemple, on fait. Du coup, on guérit, et c'est l'enseignement d'Azarias, hein, l'ange gardien de l'Intorta, eh bien, on guérit de petit à petit du péché originel. Et si, comme saint Paul, on peut dire on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire et on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, eh bien, petit à petit, on se rend compte que la vie chrétienne, la vie sacramentelle, permet doucement, petitement, je ne dirais pas jour après jour, oui, bien sûr, l'effort est jour après jour, mais pas année après année, mais parfois on se rend compte décennie après décennie de faire des véritables progrès. En tout cas, d'être clairement freiné, tout au moins, vers nos penchants les plus mauvais. Grâce à la doctrine chrétienne, grâce à ce que Jésus enseigne, il suffit d'y prêter la foi. Voilà, voilà. Donc, je termine avec un tout petit extrait. C'est très beau, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc là, qui a été adapté, la vie de Jésus, hein, un petit livret par Luc Borza, un auteur qui a adapté l'évangile tel qu'il m'a été révélé pour les enfants. Donc, c'est une série qui s'appelle La vie de Jésus, hein, et l'adaptation est faite donc pour que un jeune lecteur qui apprend à lire, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans, ça va très bien, eh bien puisse, comme un petit roman personnel, eh bien, découvrir Jésus et se mettre à son école. Extrait de La vie de Jésus, donc de Luc Borza. Donc aujourd'hui, il y a 17 petits volumes, hein, vous pouvez les parcourir, les offrir aux enfants, c'est vraiment très très bien pour les petits. Le pardon de Dieu. Pour le moment, je ne te coupe pas les cheveux, dit le serviteur de Lazare à Marc-Léam. Après l'examen, les lévites te les tailleront et moi, je te les raccourcirai correctement. Donc c'est, vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui connaissent, Marc-Léam, le fils adoptif de Simon-Pierre, qui était un petit-fils d'un berger mourant. Jésus l'a, eh bien, l'a sauvé et il vient vivre avec Porphyrée, la femme de Simon-Pierre, et de temps en temps rejoint le groupe apostolique. Et ce Marc-Léam deviendra le saint Martial, qui a évangélisé une partie du Limousin, et qui est venu avec les saintes femmes et une partie des disciples de Jésus en France, et à qui on doit peut-être la foi. Et donc là, on a les premiers passages où la Sainte Vierge elle-même le remet au propre, parce qu'il vient d'un groupe de bergers et il est habillé proprement. Après avoir lavé les longs cheveux de Marc-Léam, le barbier de Lazare les peigne soigneusement et il les oint d'huile d'amande. « Tes cheveux sont secs et cassants. Marthe m'a donné cette huile pour les fortifier. » Le serviteur s'en va et salue Marie, qui entre dans la pièce. « Viens que je t'habille, » dit Marie à Marc-Léam. Pendant la nuit, elle s'est occupée des anciens habits de Lazare et les a ajustés à la taille de Marc-Léam. Vêtue d'une unique blanche, alors pardonnez-moi, c'est Marie de Magdala, hein, qui est la sœur de voilà, de Marthe, hein, et qui ici, je crois, le fait, on va le voir par la suite. Pendant la nuit, elle s'est occupée des anciens habits de Lazare, voilà, vêtue d'une tunique blanche et d'un vêtement de laine rouge, le jeune garçon ne ressemble plus au petit pauvre des jours précédents. Il est devenu un prince. « Va jouer et fais attention de ne pas te salir, » lui dit Marie en lui caressant le dos. En sortant de la pièce, Marie-Vème tombe directement sur Thomas qui s'exclame de sa grosse voix sympathique « Comme tu es beau !»« Viens, allons voir les femmes, elles t'ont préparé à manger et te cherchent partout. » Thomas est un homme de grande taille, toujours joyeux. Avec son visage rond, il respire la bonne humeur et la répand autour de lui. Marie-Vème a trouvé en lui un parfait compagnon de jeu, un gars, un brin taquin. Ils entrent dans la cuisine et découvrent Marie-Salomé et Marie d'Alphée qui leur tourne le dos et penché sur les fourneaux. Décidé à leur faire une farce, Thomas fait signe à Marverne de se taire. Ils avancent à petits pas pour n'être ni vus ni entendus. Soudain, Thomas s'écrie « Le voilà !» Et les deux maris sursautent, tandis que Marverne et Thomas éclatent de rire. Faisant les gros yeux à Thomas, qui n'en est pas à sa première blague, elle s'émerveille devant le jeune enfant si beau. « Il n'a plus qu'à grossir un peu, dit l'une. « J'y veillerai, ajoute l'autre en le servant. « Mais Jésus va le confier au berger, objecte Thomas. « Jamais de la vie. En cela, Jésus se trompe. « Vous voulez-vous, et que savez-vous faire, vous les hommes, à part vous disputer ?« Les enfants ont besoin de mère. « Et regardez, interrompt Thomas, en voyant Jean d'Ador passer devant la fenêtre. « Alors, vous voyez, on a une petite scène très... intime, hein, finalement. Tous les petits détails de la vie normale, hein, des réactions plus ou moins parfaites des gens qui entourent le groupe apostolique. Le disciple d'Andorre a les joues rasées, les cheveux et la barbe bien peignés, parce que lui aussi vient de loin. Ses vêtements sont sans faux plis et il est chaussé de sandales neuves. Et ensuite, Jésus et Lazare arrivent devant la maison et petit à petit, un cercle se forme autour d'eux. Etc. Jésus annonce qu'il va visiter les lépreux, etc. Alors, je vous laisserai découvrir ce que Jésus dit. C'est absolument splendide. Donc, on découvre dans ces petits livres de la vie de Jésus une adaptation à la hauteur des enfants. Voilà, il est un peu tard peut-être pour la fin de l'émission. S'il y en a qui ont des questions, évidemment, vous pouvez appeler la radio, faire passer. On essaiera d'y répondre. Je précise qu'il y a toujours des conférences qui se font en visioconférence. Hein. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Maltorta, vous pouvez vous joindre à un petit groupe sur Internet. C'est très facile, il suffit d'avoir une petite caméra, vous vous branchez, et puis on vous envoie un lien et vous retrouvez. Donc il suffit de taper sur Internet visioconférence Maria Maltorta. Visioconférence Maltorta, et vous tombez sur le site, les explications. Et vous vous inscrivez, c'est un moyen de faire connaître aussi à des gens qui sont autour de vous. On a entendu de nombreuses personnes découvrir Maltorta avec un conférencier qui réunit 5, 6, 10 personnes. Et puis, ça permet de voir un peu une petite partie, une étincelle de l'extraordinaire qui est contenu dans cette œuvre, une petite facette du diamant pur que contient cette immense œuvre, encore une fois, qui ne contredit en aucunement, contrairement aux bêtises qu'on peut voir sur Internet, et qui ne contredit aucunement l'enseignement de l'Église, bien entendu. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler, moi qui connais l'œuvre. Mais au contraire, comme le dit un prêtre, Saint Thomas, c'est la somme théologique. Eh bien, Maltorta dit le prêtre, ce prêtre qui est aumônier de sœurs religieuses, il dit, eh bien, l'œuvre de Maltorta, c'est la somme narrative. Et c'est vrai qu'il y a un tel enseignement, eh bien, qu'on ne se lasserait pas ni d'en parler, ni de la contempler. Voilà, je souhaite une bonne lecture à tous les auditeurs.
Merci beaucoup Bruno, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.